Comme ces mots, mes amis, me semblent extraordinaires de dire qu'il a pris la condamnation. Jusque dans les années 70 en France, on guillotinait, vous le savez. La peine de mort était de rigueur. Et les derniers condamnés à mort, Bontemps, je crois, et d'autres, si on leur avait dit un beau matin, il y avait un innocent parmi eux d'ailleurs, « Messieurs, vous êtes libérés parce que quelqu'un a pris votre place. » Mais ce n'était pas le cas. Et voilà que Dieu a pris notre place. Oui, voilà la nouvelle extraordinaire qui semble sortir d'un autre monde. Dieu prend notre place. Prend-il notre place au travail quand nous pleurons seuls chez nous le soir dans la chambre? Prend-il notre place quand nous sommes dans l'agonie de la mort? Prend-il notre place quand nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu? Oui, il nous aime. Ce ne sont pas des mots, du vent. Chez Dieu, aimer, c'est de l'action. Il a prouvé, il a montré, il a manifesté son amour. Je voudrais qu'ensemble nous ouvrions notre cœur et notre âme à Jésus-Christ, qui vient nous visiter et nous réconforter avec des paroles du psaume de cet après-midi. On va prier le Seigneur. On va se lever ensemble quelques instants, bref. Parce que la lumière, voyez-vous, pour qu'elle entre chez vous le matin, il faut simplement ouvrir les volets et les fenêtres. C'est très simple. On ne peut pas faire rentrer le soleil dans votre chambre, heureusement pour vous. Mais simplement, on ouvre la fenêtre et le soleil rentre. Et je crois que lorsqu'on ouvre son cœur en disant « Seigneur, je veux t'entendre, je veux que tu m'aides, que je veux m'appuyer sur toi », la lumière entre. Je prie le Seigneur pour vous. Tu as parlé, Seigneur, nous voulons t'entendre. Tu nous as tendu les mains et nous voulons les saisir. Tu as parlé dans notre cœur et nous voulons t'ouvrir la porte intérieure, la plus lourde, la plus difficile peut-être, la porte de la foi. Parle-nous, Seigneur, et tire-nous hors de nos sables mouvants. Tire-nous hors de notre dépression, de nos chagrins que personne ne peut consoler. Sors-nous, Seigneur, des ténèbres. Fais-nous parvenir à la belle lumière de l'Évangile qui brille depuis des milliers d'années dans le monde. Dieu nous aime, Dieu nous cherche. Seigneur, prends-nous par la main pour nous faire traverser les chemins tourmentés, les torrents impétueux, les maladies et les dépressions. Tiens-nous par la main aujourd'hui, donne-nous de te connaître, parce que te connaître c'est vivre, te connaître c'est recevoir le Seigneur dans son cœur. Merci Seigneur, amen. Je vous invite à vous asseoir, bienvenue à chacun de vous dans cette réunion d'évangélisation où l'on partage l'Évangile. Parce que ce n'est pas seulement pour les lettrés, pour les juifs, pour une race d'hommes plus importante que d'autres. L'Évangile est pour le plus misérable, le plus faible, le plus pauvre. Je vais vous lire le psaume 22, quelques versets du moins. Si vous avez la Bible avec vous, suivez-moi. Si vous n'avez pas la Bible, suivez-moi quand même. Maintenant, vous savez, si nous commettons des infractions sur la route, sur l'autoroute, on peut être doublé par la police avec ses voitures de police. Et tout à coup, il s'affiche en lettres lumineuses derrière la voiture de police. Suivez-moi. Alors, vous voulez bien me suivre aujourd'hui, ça va aller? Psaume 22. On commence au verset 2. C'est un psaume du roi David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre, donc la honte des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Arrêtons la lecture ici. Ce sont les mots du roi David. C'est lui qui a prononcé ces paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je me demande ce qu'il a, David. J'ai l'impression, dites-moi si j'ai raison, qu'il est malade. Il ne lui reste plus que la peau et les os. Il peut même compter tous ses os. Au fait, savez-vous combien vous avez d'os? Combien? Voilà, quelqu'un sait. Très bien. Oui, j'ai l'impression qu'il est malade. J'ai l'impression qu'il est dépressif, non? Qu'il est tout maigre. Et quand on va mal, il y a toujours quelqu'un qui nous enfonce, vous savez. Il a des ennemis qui hurlent de rire devant lui. Qui hurle de rire devant sa détresse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots, peut-être que vous les avez déjà dit. Peut-être que vous les avez déjà pensés. Ce sont des mots tragiques. Mais dans ces mots, il y a une petite lumière qui brille. Parce que David, il dit quand même « Mon Dieu ». Il maintient le possessif, mon Dieu, tu es à moi, même si pour toi je compte plus, même si tu ne t'occupes plus de mes affaires, moi je continue de dire tu es mon Dieu. Ce n'est pas un insensé, David. Dans les psaumes, il est souvent dit, l'insensé dit, Dieu ne punit pas, Dieu ne regarde pas, Dieu se cache le visage pour ne pas voir. Dieu se met un masque pour ne pas regarder les gens qui souffrent. Non. Ça, ce sont les insensés. David, malgré tout ce qu'il vit, continue à dire « Mon Dieu, Dieu existe, Dieu a du cœur, Dieu est attentif. » David a quand même un sentiment d'abandon, mais il cherche à comprendre. Il rentre en lui-même. « Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? Pourquoi ?» Quand on dit « Pourquoi ?», ça veut dire « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il regarde vers Dieu. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» « Lama sabachthani » en araméen. On a ça dans l'Évangile. Il est tragique ce mot « abandonné ». Quelqu'un qui se sent abandonné, c'est quelqu'un en péril. C'est quelqu'un qui ne tient plus à la vie. C'est quelqu'un qui vacille. C'est quelqu'un qui cherche peut-être là ou ici une branche, quelqu'un, pour se raccrocher à la vie. Je crie le jour, dit David. Je crie la nuit et je n'ai pas de repos. Vous avez dit cela déjà ? Tous les mots du psaume, je crois que nous aurions pu les dire un jour ou l'autre dans notre vie. Car nous connaissons des angoisses dans notre cœur et des chagrins inguérissables, inconsolables, qui peuvent nous tenir réveillés jour et nuit, qui bouleversent le rythme de la vie. Il n'y a plus de saison dans la vie, qui bouleversent les repas, la santé, l'amitié, le bonheur d'être, le bonheur de se réveiller, le bonheur de se coucher. Mais c'est un grand croyant, David, parce qu'il continue à prier. Peut-être que ce croyant ne voit qu'un côté des choses. Souvent, c'est un de nos problèmes. Nous voyons un côté des choses. Lui, David, il disait, mais nos pères se confient en toi, les anciens, les ancêtres. Ils se confiaient et toi, tu les délivrais toujours. Ils criaient à toi quand ils étaient malheureux et toi, tu les sauvais. Ils te faisaient des confidences et jamais ils n'étaient déçus, jamais. Alors David semble dire, toutes les belles choses de Dieu, c'est du passé. Combien de fois on me l'a dit ? Mais ça, c'était bon hier. Aujourd'hui, les temps ont changé. David pense que tout cela, c'est un passé qui ne pourra plus jamais se vivre. Je voudrais vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sur la terre, des choses changent, il y a des saisons. Le cœur de l'homme ne change pas, le cœur de Dieu ne change pas. On est toujours aussi pécheurs et enténébrés, mais Dieu ne change pas pour nous faire parvenir dans sa lumière. Amen. Nous aussi, parfois, nous regardons le passé comme quelque chose de beau, mais ça a été mon cas quand j'étais plus jeune. Quand j'étais enfant, adolescent, je regardais les évangiles comme une magnifique histoire qui n'était pas pour nous. Parfois, on regarde la Bible comme l'histoire de l'humanité, le patrimoine de l'humanité, comme un musée d'histoire ancienne, comme un musée où Dieu faisait et ne fait plus, Dieu parlait et ne parle plus, Dieu n'est plus à l'œuvre comme il était, hélas, hier. Voilà comment nous regardons les choses. Mais c'est vrai qu'on voit les églises se vider, on voit des églises qui sont démolies, on voit la foi qui est malmenée par les scientifiques ou par le péché dans le monde d'aujourd'hui, et on se demande où sont les temps évangéliques, où sont les temps bibliques, où est le Christ aujourd'hui, que fait-il ? Ce sentiment, il a toujours existé au fond de beaucoup de gens. « Seigneur, tu n'es plus le même ». Même Jérémie, le prophète, qui a vécu des choses très difficiles, Il disait, mais pourquoi, Seigneur, tu serais comme un étranger au milieu de nous? Pourquoi tu serais un héros incapable de nous sauver? As-tu changé, Seigneur? Es-tu le même, Seigneur? Dieu ne change pas. Amen. Mais Dieu nous change. David attend une réponse. On ne comprend pas très bien ce qu'il a, mais il va mal. Il est aux portes de la mort. Et la réponse, dans ces cas-là, quand on traverse un deuil grave, c'est toujours grave un deuil, bien sûr, quand on traverse un moment de difficulté dans le travail, quand on traverse des déceptions sentimentales, quand on ne tient plus à la vie, quand on est taraudé par des pensées suicidaires, on attend une réponse, pas une réponse intellectuelle, pas un cours, on attend une réponse salutaire qui nous empoigne, qui nous prend et qui nous dit « Je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, je viens te secourir. » Amen. Quand Dieu est descendu en Égypte, qu'il a vu les enfants d'Israël qui faisaient des briques et qui mouraient dans la tâche, qui étaient là écrasés par le chagrin, écrasés par la fatigue, eh bien Dieu est descendu pour dire « Je viens pour sauver mon peuple et pour le faire monter vers un pays où coule le lait et le miel. » Amen. Ça, c'est la délivrance de Dieu. David va mal. Je suis un ver et non un homme. Vous avez entendu? Un ver, c'est un petit animal sans consistance. Est-ce que j'ai raison? Qu'on écrase sans état d'âme, non? Une fois, j'ai tué un chat en voiture. Oh, on n'aime pas tuer les animaux comme ça, bêtement. Mais un ver. C'est rien, un ver. Je suis un ver. Ça veut dire que parfois, nous aurons le sentiment d'être rien et que l'on nous méprise sans compassion, sans pitié, sans état d'âme. Ce sentiment d'être insignifiant et de passer sur la terre sans que personne ne nous remarque. Je suis un ver et non un homme. Sentiment d'être marginalisé. Terrible ce sentiment, de jamais être regardé. Il y a des jeunes un jour qui faisaient du roller. Jamais je suis monté sur ces engins terribles. Y aller, les loopings, etc. Et puis, il y avait un petit grand-père assis sur un banc qui les regardait. Y aller, grand-père, regarde, il faut aller croquer tout ce qu'on fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Et tchouf. Grand-père, il dit, j'étais résistant en 1943, jusqu'à la libération. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas joué au roller. Mais ce petit grand-père, peut-être marginalisé par l'âge, il avait en lui quelque chose de beau, de lumineux, de grand. Vous savez que quand on n'est pas moderne, on est marginalisé. Si on n'a pas les mêmes pensées que tout le monde, aujourd'hui on va vers la pensée unique. Je vous ai souvent parlé de ça. Jeune, beau, bonne santé, consommateur, productif, là vous êtes bien. Sinon, on évite un ver, un petit ver que l'on écrase. Et David dit encore, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan. Bazan, c'est une région de la Galilée qui était très, très verte, très belle, avec des pâturages magnifiques. Et les taureaux, pouf, ils prospéraient bien, ils étaient forts, mais un peu agressifs. Les taureaux de Bazan, je ne sais pas si vous en avez vu parfois. Ce sont les dangers qui nous bousculent. Agressif. Nous avons aujourd'hui dans le monde des forces ténébreuses qui montent de plus en plus. Car le péché ouvre la porte aux puissances du mal. de ténèbres qui dressent les humains les uns contre les autres. Avez-vous remarqué combien le péché grandit aujourd'hui? On assiste à des massacres d'enfants, des oublis d'enfants, des... On se demande jusqu'où, est-ce qu'on en verra le bout, est-ce qu'il va y avoir un terme à cela, mais c'est toujours de plus en plus grave, toujours de plus en plus grave. Jésus l'avait dit, bien sûr. Ces taureaux, ce sont les forces de mort qui nous bousculent. La maladie, le sentiment d'être oublié des autres, c'est terrible. Pas une parole. Jamais, pas un coup de fil. Sentiment d'un désespoir qui nous gagne, devant lequel on perd de plus en plus de dynamisme, de punch, de force. Un désespoir qui nous vide. Des taureaux m'entourent et me pressent et j'ai peur. Et puis, au milieu de cela, il y a le lion. Au milieu des taureaux, il y a comme un lion. Vous savez, le lion, par rapport au taureau qui lui ferme les yeux, puis bon, nous bouscule. Le lion, il ouvre les yeux, il ne les ferme jamais. Jusqu'à ce que la proie soit dans son ventre. Quand il regarde sa proie, il va dessus, gueule ouverte, et là, la proie, elle n'a aucun espoir. Jésus disait que le monde est dominé par la puissance de Satan. Je pense qu'il nous regarde pour chercher qui il va dévorer, détruire petit à petit. Voilà, David, pourquoi m'as-tu abandonné devant tout ce qui se passe? Quand il dit, ma force se dessèche comme l'argile, ça m'a fait penser quand même cette parole à quelque chose. Ça m'a fait penser à des gens qui meurent et qui sont à l'agonie et dont la bouche ressemble un peu à de l'argile toute séchée, tellement c'est terrifiant. Ma force se dessèche comme l'argile. J'ai l'impression que David, il est moribond. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Il compare ses forces à de l'eau qui part et ses forces l'abandonnent et sa vie se rétrécit d'heure en heure. Nous, on dit, j'ai pas la pêche. Hein? Mais David, il dit des paroles plus justes. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. On se rétrécit. Quand je travaillais à l'hospice, on l'appelait ainsi à l'époque, la vie des gens se rétrécissait. Et je me souviens de ces petites bagarres entre deux grand-mères, parce qu'il y en avait une qui avait mis un objet sur la table de nuit de sa voisine. Ils avaient un lit, une table de nuit. Et bien un objet qui était là, qui ne devrait pas être là. Reprenez ce que vous avez mis sur ma table de nuit. La vie se rétrécit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. On rétrécit dans la vie. On commence, on veut dévorer le monde, et puis plus ça va, plus les mains vont se relâcher sans rien prendre. Ils se partagent mes vêtements, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ils vont même prendre ce qui fait ma pudeur, ma légitimité, ma grandeur humaine, ma dignité humaine. Ces paroles, voyez-vous, ne disent pas toute la vie humaine. Je pense que la vie, c'est quand même autre chose que ça. Je pense aux apôtres qui étaient dans la barque et qui avaient la tempête et ça secouait, et Jésus dormait, et les apôtres, ils hurlaient, « Seigneur, réveille-toi, on va mourir, on va sombrer. » Eh bien, les apôtres, mes amis, ne voyaient qu'un côté des choses. Ils voyaient le côté noir. Mais ils ne voyaient pas bien qu'à côté d'eux, il y avait le Christ qui était tranquille, qui était fort, qui était avec eux, qui était de leur côté. Il voyait le côté négatif et non pas le côté positif où le Christ est avec eux. Et je crois qu'ici, David regarde vraiment un seul côté de la vie. Si nous mettons dans la terre des grains de blé, vous savez ce qu'ils vont devenir ? Ils vont pourrir, ils vont se défaire, les enveloppes vont se défaire tout doucement, les unes après les autres, ils vont mourir. Ça, c'est un côté, mais ce n'est pas tout le côté. Parce qu'on pourrait dire, ah, comme c'est triste, ce blé quand même que j'ai acheté, voilà qu'il est en train de se décomposer. Mais il y a un autre côté, c'est que le grain de blé va sortir de terre, amen, et il va surgir comme une résurrection. Oui, David ne voit pas tous les côtés. Et vous non plus. Je reviens encore à cette parole quand même qui a de l'humour, mais j'ai vu déjà cet humour-là chez des gens arrivés en fin de vie. Je pourrais compter tous mes os. Vous avez dit, mon cher frère, 208. Je pourrais compter tous mes os. Ça veut dire qu'il n'est pas gros, il n'est pas gras. J'ai l'impression que David, là, il y a un petit peu d'humour quand même, non ? Un petit peu d'ironie. Mais devant lui, les gens hurlent de rire. Voyons, regardez-le. Dieu le délivrera s'il l'aime. Soyons sans crainte. Se moque de lui. David est complètement rejeté en dehors de l'humanité. Mais mes amis, revenons les pieds sur terre. La Bible nous montre que le Seigneur exauce au jour de la détresse tous ceux qui se confient en lui. La Bible dit, oh, combien est précieuse ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, et tu les protèges contre les langues qui les attaquent. Il y a un autre côté lumineux dans la vie. Si un homme pouvait dire un jour, pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur, mon Dieu ? Je pense que cet homme-là serait déjà hors du monde. Il serait déjà hors de la terre. C'est les mots de l'enfer. C'est les mots d'une condamnation. C'est les mots d'une punition éternelle. Pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est vrai que parfois, on a ce sentiment que, est-ce que Dieu pense à nous ? Un jour, David a commis une faute, grave, grave. Et Dieu lui a fait sentir. Mais ça, c'est la pédagogie. Si votre enfant met le feu à la maison, vous n'allez pas, vous allez pas lui dire, mon petit garçon, je ne voudrais pas te choquer, mais ça va bien ? Non, ça va mal. Et Dieu a dit à David, ça va mal. Un instant, Dieu lui a dit ça. Et David a été tout troublé. Il a dit, arrête Seigneur, arrête. Que gagnes-tu de verser mon sang ? Seigneur, ne me rejette pas. Seigneur, Seigneur, épargne-moi. Et David dit ensuite, ta colère a duré un instant, mais ta grâce dure toute la vie. Amen. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Oui, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je vais vous dire la vérité. Il y a sur la terre un seul homme qui peut dire ces paroles-là. Un seul homme abandonné. Voulez-vous que je vous dise sa parole ? Eh bien, la voici. Jésus sur la croix, vers la 9e heure, c'est-à-dire à midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le seul personnage qui peut dire cela. Sa prière cognait à une porte fermée. Dieu avait fermé la porte. Lui qui disait, je ne suis jamais seul, le Père est avec moi. Dieu a fermé la porte. Que s'est-il passé ? dans les rues de Jérusalem, quand il portait sa croix, quand il montait sur la colline du Calvaire, il y avait dans toutes les rues de cette ville à l'époque des porteurs d'eau. Personne ne lui donne à boire. Ma langue s'attache à mon palais. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Les adversaires le regardent, triomphateur sans gloire. Et lui, il est comme un ver au milieu des taureaux. Il n'a pas de défense, il n'a pas de force. Que s'est-il passé ? Qui est ce Jésus ? Est-il un esclave révolté contre son maître ? Est-il un roi bouffon pour rire, pour faire rire les petits ? C'est Jésus de Nazareth qui vient prendre sur lui la vraie condamnation. La condamnation à cause de nos péchés, c'est que Dieu nous abandonne. C'est ça la condamnation. L'enfer, c'est quoi ? C'est pas des flammes qui brûlent jour et nuit. C'est être sans Dieu. Et être sans Dieu, c'est un désespoir. C'est un regret. Éternel. Et Jésus sur la croix, il prend l'enfer en pleine face. Il est abandonné de tous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Lui-même est comme dans une question, il ne comprend plus, il ne voit plus. Il est abandonné. Sinon, il aurait dit, je sais que tu es là, Seigneur, mais enfin, bon, on va jouer le jeu quand même. Non, il est abandonné, abandonné. Le Messie abandonné, le Christ, le Créateur du monde, devant lequel tout passera, tout pâlira. Les cieux et la terre seront roulés comme un manteau. Devant lui, les genoux fléchiront. Toutes les langues du monde diront un jour en ressuscitant, c'est le Seigneur. Les athées, les incrédules, les moqueurs diront, c'est le Seigneur. Les chrétiens, les martyrs, les témoins de l'Évangile, les apôtres diront, c'est le Seigneur. Les plus grands criminels qui auront persécuté les chrétiens diront, c'est le Seigneur. Tout le monde verra le Seigneur. Qui a été mené comme un agneau sans défense. Jésus va plus loin que Job. Job disait dans sa détresse, je sais que mon rédempteur, mon libérateur est vivant et je le verrai un jour. Mes yeux le verront. Jésus dit, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est la détresse. Dieu l'a abandonné pour ne pas nous abandonner. Dieu l'a condamné pour nous gracier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? Vous avez une petite idée ? S'il n'y a que lui qui pouvait le dire et s'il l'a dit, nous qui sommes dans la tourmente, et nous aussi on dit, ma force s'écoule comme de l'eau. Je suis environné de taureaux, la gueule du lion est là, ma force s'en va comme l'eau qui s'écoule. Je suis comme de la cire. Quand on était enfant, à la fin de la période de Noël, on regardait les bougies. C'était la fin des bougies. C'est particulier la fin des bougies. Et la cire qui se tordait là, il n'en restait presque plus. Je suis comme de la cire, ça veut dire que je me rabougris, je m'en vais. Alors qu'est-ce que nous allons dire au Seigneur ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Non. Nous allons dire cette parole. Je vais vous la lire. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Est-ce la tribulation ? Je suis comme un ver et non un homme. Est-ce l'angoisse ? Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Est-ce le péril, l'épée ? Je pourrais compter tous mes os. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Vous avez la réponse ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. J'ai l'assurance que ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni aujourd'hui, ni demain, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Je ne dis pas pourquoi m'as-tu abandonné, je dis tu ne m'as pas abandonné, tu ne peux pas m'abandonner parce que tu m'as aimé de toute éternité. Je ne suis pas né comme l'avorton qui vient, il n'y a pas d'avorton d'ailleurs. Je ne suis pas né par un hasard, j'étais prévu dans le projet de Dieu. J'étais dans le sein de ma mère et je m'appuyais sur toi, dit David. et Dieu avait tout prévu les jours qui m'étaient destinés. Je suis aimé de Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Non, personne ne me séparera de toi, Seigneur. Amen. Je prie le Seigneur pour vous. Je lui demande de vous accorder cette certitude pour que la joie renaisse en vous, pour que la foi prenne place dans votre cœur, pour que la prière frappe à la porte de Dieu, pour que vous entendiez la voix de votre Père qui vous aime, pour que vous vous laissiez saisir par le Dieu de toute éternité, le Dieu d'amour. Je prie le Seigneur pour vous. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Parfois, les hommes nous ont abandonnés. Ils nous ont même parfois reniés. Des enfants peuvent renier leur mère ou leur père. Mais Dieu ne reniera jamais les êtres humains qu'il a créés, qu'il a choisis, qu'il appelle. Tu nous aimes malgré nos indifférences, malgré nos fautes et nos erreurs d'aiguillage. Tu nous aimes parce que tu nous l'as prouvé, tu nous l'as montré. Tu as un projet pour nous magnifique qui ne dépend pas du bien ou du mal que nous avons fait, mais qui dépend du bien que tu as fait. Et ce projet, c'est qu'un jour, nous danserons et nous chanterons dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, Seigneur, saisis-toi de nous. Si l'on nous abandonne, prends-nous dans tes bras, comme une mère prend son enfant pour le consoler des chagrins de sa journée. Prends-nous dans tes bras. Nous voulons nous remettre en toi. Nous voulons te confier nos jours passés, nos jours présents et à venir. Merci, Seigneur. Amen.